instrument de torture là aujourd'hui pour que ma voix ne baisse pas. Vous connaissez que ma voix baisse souvent pendant les messages et qu'à la fin vous n'entendez plus rien. Donc j'espère que ça ira mieux aujourd'hui. Luc, si tu voulais, il est parti Luc. Jean-François, tu peux éteindre s'il te plaît, on voit un tout petit peu mieux les images si tu veux éteindre. Et puis, ah ouais, on ne voit pas bien finalement. Est-ce que vous reconnaissez, on ne voit rien en fait. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est dans la photo là, en haut à gauche? Ah, il est très connu, vous connaissez très très bien la politique, manifestement. Comment il s'appelle, cet homme-là? Il s'appelle Cahuzac, Jérôme Cahuzac. C'était quoi sa fonction? Ministre du budget, plus exactement, en 2012. Et donc, ce qui s'est passé, manifestement, vous le savez bien, ça, c'est qu'en fait, il a été accusé de fraude fiscale, et qu'il va donc nier devant à la fois les journalistes, mais devant l'Assemblée nationale, qu'il n'a pas de compte en Suisse. Non, jamais, ni avant, ni maintenant, je n'ai pas eu de compte en Suisse. Sachant qu'il a un compte en Suisse, il va démissionner quelques jours plus tard. Pourquoi ça dans mon message? Je ne vais pas vous parler de politique, ce n'est pas le lieu de parler de politique. Si ce n'est peut-être pour vous inviter à prier pour les autorités, je vous invite à prier pour le gouvernement, pour les ministres, pour le maire de notre ville. Et mon but n'est pas de dénigrer cet homme qui a fait cela. Pourquoi j'en parle? Parce que cette année, il est passé en jugement, au mois de février, et l'avocat que vous voyez à droite, maître Dupont-Moretti, quand il a plaidé pour lui éviter de faire de la prison ferme, sa plaidoirie a été de faire un parallèle entre ce qu'avait fait ce ministre et un disciple du Christ. Sa plaidoirie était centrée là-dessus, en comparant le fait que Jérôme Cahuzac ait nié avoir un compte en Suisse et un disciple de Christ dont on va regarder aujourd'hui l'histoire. La justice des hommes n'a pas été clémente, et finalement, il est allé en prison. Si tu veux passer à la diapo suivante, alors, pour ceux qui sont là habituellement, ils reconnaissent cette photo, parce que depuis quelques fois, je fais une série sur les évangiles, et c'est l'image de Jésus qui est avec ses disciples, et d'habitude, je veux plutôt parler de notre maître, de Jésus-Christ. Et ce matin, je fais un petit peu une petite digression, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un des disciples. Alors, c'est qu'une photo d'un film, hein, et pour moi, c'est un peu celui qui est à droite. C'est Pierre. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui un peu de Pierre et de ce qu'il va vivre aussi avec notre Seigneur. Alors, Pierre, c'est un des disciples les plus proches de Jésus. Il a été notamment parmi les disciples que Jésus a pris avec lui lorsqu'il va guérir la fille de Jaïrus. Il est aussi sur la montagne de la Transfiguration. C'est lui qui va pouvoir dire « Tu es le Christ ». Vraiment un des plus proches, un des trois plus proches. Avant qu'on lise le passage qu'on va lire en Matthieu, juste un petit peu, on voit rien du tout, c'est dommage. Un petit peu le contexte. On est dans la dernière, dans ce qu'on appelle la semaine sainte. On est donc jeudi soir, jeudi dans la nuit, où Christ va être crucifié le lendemain. Judas a décidé de trahir son maître. Et donc, notre Seigneur partage la Pâque avec ses disciples. Il leur partage toute une série d'encouragements. Il va leur parler du Consolateur, du Saint-Esprit qui va venir. Il va prier son Père devant eux avec cette magnifique prière de Jean 17. Puis, ils se rendent au jardin de Gethsémané. Là, il va prendre avec lui trois disciples, encore les trois mêmes, Pierre, Jacques et Jean. Il leur demande de veiller. Et puis Jésus commence à éprouver de terribles angoisses. Son âme est triste jusqu'à la mort, comme nous dit la parole. Il se jette sur sa face et demande à son Père que cette heure s'éloigne de lui, mais se soumet finalement à la volonté de son Père pour notre salut. Et Jésus retrouve ses disciples, dont Pierre, qui sont endormis. Puis Jésus est arrêté suite à la trahison de Judas qui va le trahir par un baiser. Et puis, on voit Pierre, un nouveau Pierre, qui tire son épée, qui coupe l'oreille d'un serviteur, du souverain sacrificateur. Jésus le guérit, tous s'enfuient, et Jésus est emmené chez le souverain sacrificateur pour être jugé. Et là, vous avez les scribes et les anciens qui cherchent tous les éléments pour faire condamner Jésus, quitte à trouver des faux témoignages pour le faire condamner et l'emmener devant l'autorité romaine, devant Pilate. Et donc je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles, on va lire après avoir situé un peu le contexte en Matthieu 26. Et je vous invite à ouvrir vos billes, Matthieu 26. Ouais, super. Avant qu'on attaque le passage, on va lire au verset 58. Juste un petit verset. On va juste lire versets 57 et 58 de l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent chez Caïphe, le grand prêtre, chez qui les interprètes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Et puis on va poursuivre avec au verset 69. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme !» Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens, c'est bien clair, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure, que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Avant qu'on étudie un tout petit peu ce texte qui n'est pas très compliqué, je voulais souligner deux remarques. La première chose, c'est que dans les quatre évangiles, vous trouverez ce récit-là. Vous avez certains passages qui ne se trouvent que dans un seul ou dans deux évangiles. Là, les quatre évangiles montrent ce reniement de Pierre. C'est important qu'on le souligne. L'Esprit-Saint voulait vraiment que ce soit conservé pour nous. Deuxième petite remarque, je trouve très intéressant qu'on voit ici un disciple qui tombe bien bas, en fait. Et pour moi, c'est comme une preuve supplémentaire de la véracité de la Bible. Si vous prenez des écrits de cette époque-là, très souvent, on raconte l'histoire des héros, les héros, ils n'ont pas de failles, ils n'ont pas de... Les leaders, et on masque, on gomme toutes les imperfections pour montrer des gens qui sont forts, puissants, etc. La Bible nous montre les disciples avec toutes leurs faiblesses. Et c'est vraiment pour moi une preuve d'autant plus de la véracité de la parole. On va reprendre ce texte, verset 69. Donc Pierre se trouve dans la cour intérieure. On ne va pas le lire, mais puisqu'on a cette histoire qui se trouve dans les différents évangiles, si vous lisez en Jean 18, vous verrez qu'il y a un deuxième disciple qui se trouve là, qui est Jean. Et c'est d'ailleurs Jean qui a fait rentrer Pierre, puisque Jean était plus ou moins connu du souverain sacrificateur, et c'est lui qui le fait entrer. Alors pourquoi il est là? Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner, si ce n'est que ce qu'on a lu, il voulait savoir comment ça finirait. Alors c'est assez vague. Est-ce qu'il voulait peut-être défendre son Seigneur s'il y avait justement un jugement? Est-ce qu'il voulait témoigner pour lui? C'est juste une hypothèse, je ne sais pas dire. En tout cas, il se met dans une situation qui est bien compliquée et qui va l'amener à renier son maître. Et on voit donc verset 69, une servante qui s'approche et qui lui dit qu'il était avec Jésus-Christ et aussitôt il va le nier devant tout le monde. On va juste revenir un tout petit peu en arrière. Alors vous le trouvez dans plusieurs évangiles, mais on va le lire dans Jean 13, ce que lui avait dit Jésus quelques heures avant, difficile de dire combien, mais 5, 6, 10 heures avant. Si vous êtes en Jean 13 au verset 36, Jean 13, verset 36, Simon Pierre lui demanda « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus lui répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le chant ne se mette à chanter, tu... » Peu importe ce que j'ai dit. « Avant que le coq, vous avez raison, ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » « Je suis prêt à donner ma vie pour toi, » dit-il. Et si vous retournez dans l'évangile de Matthieu, là où on était, et que vous étiez juste un tout petit peu avant, au verset 35, vous trouvez une autre expression, Matthieu 26, au verset 35, ou verset 34, Jésus reprit, « Vraiment, je t'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois, la même chose. » Et Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » D'ailleurs, tous les disciples dirent la même chose. Donc il nie une première fois connaître son Seigneur, et puis une deuxième fois, une servante lui dit la même chose, et cette fois-ci, il va jurer. Quelque part, il monte un peu de niveau, si je peux dire. Pour renforcer ce qu'il dit, il va jurer qu'il ne le connaît pas. Alors je vais juste vous lire en Matthieu 5, cherchez pas tout, vous chercherez d'autres passages après, il y en a pas mal. Jésus, lorsqu'il est dans le sermon sur la montagne, il peut dire « Moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage « Je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dis simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non. » Tous les serments qu'on y ajoute viennent de l'esprit du mal. Voilà, malgré cet enseignement de Jésus, Pierre à nouveau va nier connaître Jésus-Christ, son maître, une deuxième fois en jurant, et puis une troisième fois. Alors dans le transparent, j'ai mis... reviens en arrière, voilà, boum, on est là. Ouais, bouge pas. Parce qu'en fait, quand j'ai préparé mon message, j'ai pas pris cette Bible-là, parce que j'ai lu dans la version du Summer. Quand je l'ai préparé, je l'ai fait avec la version seconde, où il est parlé d'imprécation. Alors, imprécation, c'est un mot tordu que personne ne connaît. Imprécation, ça veut dire, en gros... c'est plus qu'une insistance. Ça veut dire, j'appelle le jugement de Dieu sur moi. Ça veut dire, si je mens, que Dieu me maudisse. On pourrait l'illustrer que, quelque part, j'en appelle à Dieu, si je mens, que Dieu me fout droit sur place. Enfin, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas plus fort. Vous êtes au maximum de ce que vous pouvez dire pour mettre la pression, pour faire croire que vous avez raison, que ce que vous dites est juste. Et donc, il va jusqu'à appeler le jugement de Dieu. Troisième reniement. Et puis, le coq chante. Comme ce que Jésus avait prédit, prophétisé, il va. Le coq chante. Et donc, ce n'est seulement à ce moment-là, ça peut paraître surprenant qu'il faille attendre trois fois, mais Pierre, c'est à ce moment-là qu'il réalise ce qu'il a fait. Il se souvient des paroles de Jésus, il prend conscience qu'il a complètement abandonné son maître, qu'il l'a renié, et il va pleurer amèrement. Et il y a un détail qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Matthieu, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, et pour moi qui est vraiment essentiel. Il est dit en Luc 22, verset 60, « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. » Essayons de se mettre un instant dans la peau de Pierre. Il vient juste de renier trois fois son maître. Il a passé trois ans à ses côtés, il a, j'allais dire, tout vécu avec lui. Et sans nul doute, il aime vraiment son maître. Il vient de le renier trois fois et Jésus se retourne et le regarde. Imaginez le désespoir, ou je ne sais pas quoi dire, le sol s'écroule sous les pieds de Pierre, en fait. La parole ne nous dit pas ce qu'il y a dans ce regard. Alors je vais vous donner ma lecture des choses. C'est que ma lecture, c'est pas ce que dit la parole. Moi, j'y vois deux choses. j'y vois un regard de vérité. Et c'est ce regard de vérité qui transperce le cœur de Pierre. Il lui rappelle tous ses engagements, toutes ses déclarations, sa sûreté qu'il avait en disant « Non, moi jamais ». Mais je crois qu'il y avait aussi un regard d'amour, un regard de grâce. Je crois personnellement qu'il a vu le pardon de Jésus dans son regard. Peut-être aussi le rappel d'une parole qu'on ne va pas lire, mais qui se trouve en Luc 22. Jésus peut dire à ses disciples, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Notre Seigneur était à la fois plein de vérité et de grâce. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette texte ultra simple, pas très compliqué, si ce n'est que c'est une triste, triste expérience pour Pierre. Si tu veux avancer, la première chose que je voudrais souligner, c'est que dans ce regard, Pierre comprend combien, quelque part, son arrogance, son orgueil était grand, combien il était prétentieux de ses propres forces, et combien finalement son cœur est, comme dit Jérémie, tortueux par-dessus tout et méchant, qui peut le connaître. Et je vous propose de faire une petite analyse de Pierre. Alors on va le faire avec humilité. Loin de critiquer Pierre, on ne va pas jeter la pierre à Pierre. On va regarder le cœur de Pierre, non pour le juger, mais je voudrais qu'on y découvre quelque chose qui se trouve dans notre cœur. Et si la parole relate cette triste chute, c'est pour qu'on s'y retrouve. La première chose, c'est que Pierre, et si vous lisez l'Évangile, c'est un homme qui est extrêmement fougueux, mais extrêmement sûr de lui, extrêmement arrogant quelque part. Il est sûr de ses forces, sûr de ses jugements. Et donc, il a pu dire que jamais il ne trahira son maître. Je suis convaincu que dans la bouche de Pierre, il y avait beaucoup d'absolu, beaucoup de toujours, de jamais, de plus que les autres. Et je vous pose la question, je me pose la question. Est-ce que nous avons nous aussi ce même caractère que Pierre? D'être sûr de nous-mêmes, d'être sûr de nos jugements, qu'il est meilleur que celui des autres. Est-ce que je n'ai pas souvent, et c'est mon cas, le sentiment que je n'ai pas besoin des autres, parce que je sais mieux que les autres, je sais mieux que mon épouse, je sais mieux que mes frères. Et ils n'ont pas encore commencé à parler, que je sais que j'ai déjà raison. Et si vous osez porter un regard honnête au fond de votre cœur, vous verrez que c'est quand même souvent le cas. On croit vraiment avoir toujours raison. Et quand j'étais jeune, je le disais souvent d'ailleurs, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je disais souvent que moi je ne tomberai jamais ou je ne ferai jamais ça. Je crois que le Seigneur m'a montré effectivement que ce n'était pas le cas. Et c'est le privilège des aînés, de ceux qui ont des cheveux blancs, ou qui n'en ont plus comme moi, c'est de savoir que finalement mon cœur est sombre, et que je tombe facilement, et que je suis un peu moins arrogant et prétentieux dans ce que je pourrais faire, parce que je me sais plus faible que je ne le crois être. Deuxième point, il est arrogant, il est complètement aveugle sur ses propres faiblesses. Mais vraiment aveugle. Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? Connaissez-vous le domaine dans lequel vous êtes en danger? Troisième point, il y a une forme d'insoumission chez Pierre. Jésus lui dit qu'il va le renier, mais Pierre lui dit, ben non. Tu me dis que je vais te renier, mais non, tu te trompes. Une forme d'insoumission à son maître ou à sa parole. Est-ce que parfois on n'est pas comme Pierre, insoumis à sa parole aussi? Dieu a dit, mais moi je vais faire autrement parce que ça ne m'arrange pas vraiment. Et puis le dernier point que je veux souligner, Pierre n'est, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein, il faut qu'on le fasse cette analyse en étant, surtout en se regardant nous-mêmes. Pierre n'a pas été un homme de prière. Vous vous souvenez que dans le jardin, Jésus lui dit de veiller et de prier. Et finalement, il va s'endormir. Malgré toute l'intensité de la soirée qu'il a passée avec son maître, ce dernier repas en particulier, il va s'endormir. Et nous, c'est quoi notre vie de prière? Un prédicateur disait, si vous voulez embarrasser quelqu'un, vous lui demandez de parler de sa vie de prière. Et souvent, la personne est bien embarrassée. C'est rarement une chose dont il est fier. Est-ce que vous vous êtes finalement reconnu dans cette analyse de Pierre? Sûr de vous, de vos opinions? Parfois insoumis à la parole de Dieu, préférant nos opinions? Qu'en est-il de votre vie de prière? Si vous êtes reconnu, ben je vous invite à lever la main. Est-ce que vous êtes reconnu? Moi, je me suis reconnu. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous qui avez levé la main. Dieu peut vous utiliser à la manière de Pierre. Pierre va être un apôtre fantastique. Et dans toutes les actes et dans... On peut voir combien il a été vraiment un serviteur de Dieu utile. Un des plus grands apôtres. Et pourtant il avait renié son Seigneur. Et donc c'est un merveilleux message d'espérance. On peut tomber, et bien bas. Mais par le chemin de la repentance, on peut redémarrer et être un serviteur utile pour son maître. Si tu veux avancer, on voit Pierre qui pleure, et il pleure amèrement. Et le passage que j'ai noté de Corinthiens 7 nous parle de deux tristesses. La tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, et puis la tristesse du monde qui produit la mort. Vous avez deux personnes qui étaient tristes juste après. Vous avez Judas qui a été triste parce qu'il a regretté d'avoir trahi son maître et il s'est pendu. Ça, c'est la tristesse qui mène à la mort. Et puis vous avez Pierre, qui lui va pleurer amèrement et se repentir. Alors, quelque part, la parole ne montre pas ce chemin de repentance. Elle ne le décrit pas. Mais quand on voit la suite de l'histoire de Pierre, on voit manifestement qu'il a fait ce chemin de repentance. Et je voulais juste illustrer ce que c'est que la repentance, parce que c'est un mot qui est un peu ancien, c'est pas un mot du langage courant, en fait, c'est un vieux mot de chrétien, j'allais dire comme ça, qui vous en parlerez pas souvent de la repentance avec vos collègues de travail. Pour moi, ça commence toujours par une vraie tristesse, et Pierre a vraiment été triste d'avoir renié son maître. C'est un chemin qui passe par la reconnaissance. Je reconnais mon péché et que le jugement de Dieu est mérité. C'est reconnaître aussi que je ne peux pas changer tout seul et que j'ai un profond désir de changer. Et ça se termine par un appel à Dieu pour être pardonné et puis pour changer parce que je n'ai pas la force en moi. Donc j'appelle à la grâce de Dieu qui va m'aider à changer. Et tout à l'heure, Olivier a lu le psaume 51, qui est un magnifique psaume de repentance. C'est le psaume de David, après qu'il ait fait tuer Uri, l'époux de la femme qu'il avait prise, avec lequel il avait commis adultère. Et c'est le psaume qu'il va écrire, et dans ce psaume, vous retrouverez tout ce que j'ai noté là. Vous trouverez le fait qu'il va dire « c'est mon péché, c'est ma faute ». Vous trouverez le fait qu'il est là. Je ne veux pas tout le reprendre, mais en fait, il est tellement adapté à ce que je dis tout de suite. Il dit, voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Quand je me repens, je dis, Dieu, t'as raison. C'est juste. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Non seulement j'ai commis ce péché-là, mais c'est ma nature profonde. et je ne peux pas m'en sortir. Si toi tu viens pas, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voilà, si voilà, vous pouvez peut-être relire le psaume 51 après ce message. Il est tellement en parallèle avec ce que je pense Pierre a pu vivre, ce chemin de repentance. Et si la parole ne nous montre pas ce chemin de repentance en détail, il nous montre quelque part pour moi la fin de ce chemin de repentance, et c'est ce qu'on va lire maintenant. C'est une rencontre entre Christ et Pierre, un peu comme pour moi la conclusion de son travail de cœur. Et donc on va lire ce passage en Jean 21, si vous voulez ouvrir vos Bibles. Donc on est quelques jours après la résurrection de Jésus-Christ, et plusieurs disciples sont là en train de pêcher, et ils prennent rien du tout. Alors Jésus vient à leur rencontre, leur demande de jeter à nouveau les filets. Et là c'est la pêche miraculeuse où les filets vont se rompre. Et Jésus, lui, est sur la plage et il prépare un feu et ils vont manger ensemble. Et donc en Jean 21 et au verset 15, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné que c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Et dans ce texte, Jésus va donc, j'allais dire, parler cœur à cœur avec son disciple pour le relever, le restaurer. Et la traduction que j'ai lue, et comme dans beaucoup de traductions, elle est difficile, enfin, comment dire, elle ne met pas en valeur toute la force du passage qu'on peut trouver avec le grec, puisque vous avez deux mots pour dire aimer. Vous avez le mot agapeo qui veut dire amour, un sens assez fort, puisque vous avez une notion de fidélité, d'engagement, de consécration. Et puis vous avez le mot phileo qui est un mot plus faible, au sens plus faible, qui fait plus référence à l'affection ou à la tendresse. Et donc Jésus commence en lui disant « Pierre, m'aimes-tu ? » Et il utilise le mot « agapeo », ça veut dire « m'aimes-tu complètement, parfaitement, et avec engagement pour moi ?» Et Pierre répond, juste avant, en fait, la traduction que j'ai lue, en fait, c'est même tu plus que ceci. Alors, vous avez deux, juste, je passe rapidement là-dessus. Mais suivant les interprétations, certains, c'est même tu plus que ceci, plus que les poissons qui sont là. Certains comprennent ce passage comme ça. Ça veut dire même tu plus que ta profession, puisque Pierre était pêcheur. Ou c'était, est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que ceci, les autres disciples, puisqu'il avait dit qu'il l'aimait plus que les autres. Il avait. Peu importe, il lui dit vraiment, est-ce que tu m'aimes profondément ? Est-ce que tu te consacres à moi ? Et Pierre répond, mais pas avec le même verbe, avec philéo. Il dit, mais Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Il a déjà changé, en fait. Et je voulais souligner comment le chemin de repentance dont on a parlé a transformé Pierre. Il ne va pas répondre en disant, bah, je t'aime, moi, c'est sûr, et plus que les autres. C'est peut-être ce qu'il aurait fait avant. Maintenant, il ne va pas proclamer ça. Il dit pas je sais, il dit tu sais déjà. Entre guillemets, moi je ne sais pas. Je ne sais plus bien ce que je pense. Mais toi tu sais, lis dans mon cœur, tu sais que je t'aime avec affection, avec tendresse. Il est beaucoup plus humble, Pierre. Et puis, il va lui confier cette mission de paître ses brebis. Et une première fois, une deuxième fois avec les mêmes verbes. Et la troisième fois, Il n'utilise pas le verbe agapéo. Quand il dit « Pierre, m'aimes-tu ?» Il lui dit « Pierre, as-tu de l'affection pour moi ?» Quelque part, il descend d'un niveau, en fait. Et c'est ça qui va toucher le cœur de Pierre. C'est comme si Jésus lui disait « Mais finalement, tu m'aimes vraiment d'affection ?» Quelque part, il descend à son niveau, il questionne encore. Et c'est compliqué pour Pierre de vivre cela. Et sans nul doute, cette triple répétition de « m'aimes-tu » fait un miroir avec ce triple reniement. Et Pierre est touché au fond de son cœur. Et il recommence en disant « mais tu sais tout ?» Il fait toujours appel à la connaissance de Dieu. Il n'est plus du tout dans l'affirmation « tu sais que j'ai de l'amour pour toi ». Et pour la troisième fois, Jésus lui dit « prends soin de mes brebis ». Et je le lirai comme ça, en tout cas je le paraphrase comme ça. C'est comme Pierre dit, mais quelque part, je ne suis pas engagé complètement, j'ai juste de l'affection pour toi. Et c'est comme si Jésus lui disait, mais tu n'as que de l'affection pour moi. Ben même avec ce niveau d'amour-là, prends soin de mes brebis. Je te confie cette mission. Tu considères que ton amour est trop faible, je te confie quand même cette mission. Et verset 18, on voit que le Seigneur va parler de la vie de Pierre et jusqu'à sa vieillesse. Comment il est dit, tu étendras les bras. Et on considère beaucoup que c'est la manière dont Pierre va mourir et être crucifié comme son maître. La tradition rapporte qu'il est crucifié la tête en bas pour ne pas être crucifié comme son maître. Quelque part, ça, on n'en sait rien, ce n'est que la tradition. Et donc, Pierre sera cet apôtre dont Dieu se sert extrêmement utile. Quelques exemples de ce qu'il va faire. Il est là lors de la Pentecôte, il va faire des miracles. Il sera là lorsque Dieu va juger Ananias et Saphira. Il sera là dans le concile de Jérusalem, on l'a lu dimanche dernier. Pierre est complètement rétabli. Je voulais souligner les soins du Seigneur pour son disciple. Je voulais souligner quelques points. Il fait quelque part pas de reproche. Moi, j'aurais fait des reproches en long, large et en travers à Pierre en disant « Mais comment t'as pu faire ?» Trois fois de suite. En fait, il rentre pas dans le détail. Il va juste, par cette triple répétition, toucher le cœur de Pierre. Un autre exemple est lorsque face à une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, il aurait pu largement lui expliquer combien son péché était noir, il va juste dire « je ne te condamne pas ». Il va juste parler du péché, mais somme toute très peu, et ça m'a fait réfléchir à notre manière d'interagir entre nous. Pas beaucoup de reproches, mais juste, il touche le cœur, il met le doigt quelque part sur ce péché. Il va questionner l'amour de Pierre, son engagement, et lui confier une mission essentielle. Il l'appelle à le servir totalement. Et finalement, il lui dit quelque part qu'il sera fidèle jusqu'à la mort pour son maître. Et je voulais qu'on soit sûr que si Jésus a ses soins avec Pierre, il a les mêmes soins avec nous. Sans nul doute, si on a, nous, notre responsabilité, c'est parfois de se repentir, ça c'est notre part, mais la part de notre Seigneur, c'est de nous accompagner et de nous relever. Et parfois, il doit probablement vous arriver de voir un frère ou une sœur qui parfois est dans la tristesse, et parfois ça n'a rien à voir avec un chemin de repentance, mais parfois si. Et en fait, il faut peut-être prier pas que la personne retrouve la joie tout de suite, mais que Dieu fasse réellement ce travail de repentance, de ce cœur à cœur avec Dieu, pour être renouvelé et pleinement engagé pour Dieu. Je voulais terminer avec ce dernier passage d'Acte 3, verset 14, parce que pour moi, c'est un peu comme la conclusion, en sens que moi, j'aurais jamais dit ce que Pierre va dire. Je trouve qu'il est, il s'est tellement senti pardonné. Au verset, donc là, on se trouve, il s'adresse aux Juifs après qu'il est guéri, un paralysé, etc. 14, voilà, hop. En fait, il dit, vous avez renié le saint et le juste. Moi, j'aurais pas utilisé l'expression renier, sachant que si quelqu'un avait renié Christ, c'était lui. Mais il est pleinement pardonné de ce qu'il a fait. Et ça ne lui pose aucun problème de dire aux autres qu'ils l'ont renié, et ce qui était tout à fait vrai. Mais il est pleinement engagé dans la mission de son maître. Si tu veux avancer, j'ai tiré cinq conclusions. Et en fait, pendant que je vais les dire, je vous invite à réfléchir à celle qui est pour vous. Peut-être que ce matin, Dieu vous parlait sur simplement un des cinq points, pas forcément les cinq. Si c'est les cinq, tant mieux. Mais si c'est un, c'est déjà pas mal. Le premier point, c'est que il faut reconnaître, il faut non seulement savoir intellectuellement, mais reconnaître que mon cœur n'est pas meilleur que celui de Pierre. Et que moi, je peux trahir mon maître. Je vous invite à vous laisser sonder par ce regard. Alors évidemment, on ne va pas avoir ce regard physique, mais je crois que dans votre temps avec Dieu, dans votre temps de prière, de lecture personnelle, je suis sûr que Dieu, par moments, va vous parler intimement, personnellement. Et je prie que vous vous laissiez toucher par ce regard, que vous trouviez cette intimité. Et peut-être qu'il y aura à ce moment-là des choses à confesser et à prendre un chemin de repentance. Je voulais qu'on se redise et qu'on s'encourage. Notre Seigneur est un bon maître, c'est un bon berger qui veille sur nous comme il a veillé sur Pierre et qui va nous relever si on s'approche de lui avec grâce. Et puis, je n'ai pas beaucoup développé, mais cette question que Pierre répète trois fois, pardon, que Jésus répète trois fois à Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu agapéo ? M'aimes-tu entièrement ? Et aujourd'hui, Jésus vous dit peut-être, m'aimes-tu entièrement ? Il ne veut pas simplement 2 heures le dimanche matin, il veut toute votre vie, tout votre cœur sans partage. Je vous invite à prendre quelques instants de silence pour réfléchir à ce que Dieu peut mettre sur votre cœur. Et je terminerai par la prière.